pourrait donc faire un survol de tout ce qu'on a vu. Assez court, parce que ça nous donnera la possibilité d'y revenir. Hein. Donc, si vous avez des remarques, des questions, vous prenez des notes. Sur les généralités, avec Daniel au chapitre 4, nous avons vu qu'un homme construit sa vie et que selon ce qu'il construit, un homme ou une femme d'ailleurs, que les choses soient bien claires entre nous, selon ce qu'il construit, il y a des choses qui arrivent. Et on a vu que Nebuchadnezzar avait des signes et que ces signes, c'était des cauchemars ou les rêves. Et c'était aussi la folie ou un comportement qui était dans un sens anormal. Ça, c'est finalement l'œuvre de l'homme. On a vu avec Élie, dans 1 Roi 19, un peu le contraire. On a vu l'œuvre de Dieu dans un homme comme Élie. Et on a vu comment, dans cette relation que Dieu a posée avec Élie, comment est-ce que Dieu a fait? Et donc, voilà quelque chose de très indicatif. Et tout à l'heure, on verra comment Élisée, qui est un disciple d'Élie, fait avec le fils de cette femme de Sunem. Et ce sont trois directions que je voudrais vous proposer dans les trois semaines qu'on a passées ensemble, qu'on aura passées ensemble. La troisième semaine étant marquée par le tâton, en fait. C'est-à-dire que ce que Élisée fait avec, dans 2 Rois au chapitre 6, je crois, avec ce jeune homme, pour qu'il retrouve la vie, il fait quelque chose complètement à tâtons. Et donc, c'est étonnant comme les choses qui concernent les hommes sont claires. Dieu nous montre clairement ce qu'il fait. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas mal que ce soit à tâtons. Il faut mettre tout le monde à l'aise, en fait. Dieu nous appelle à chercher. Et celui qui dit qu'il a trouvé, à mon avis, il est orgueilleux. Voilà. Hein? Et donc, si on pose des choses comme ça, alors, je crois qu'on est vite dans l'essentiel qui est la foi, et tout le reste, ça risque d'être de la prétention. Autrement dit, la foi doit être accompagnée de connaissances, mais ce n'est pas la connaissance qui nous fait réussir, c'est la foi. Voilà. Donc, voilà déjà trois choses concernant des généralités que j'ai voulu mettre en tête de chaque semaine. Ensuite, les qualités de l'accompagnant. Quelles sont les qualités essentielles, à mon sens, de l'accompagnant? Ce sont des qualités de maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité? C'est, on va rester très très simple, savoir vivre des émotions douloureuses. On en vit tous. Et la maturité concernant les émotions, c'est de ne pas les redouter. Ne pas redouter d'être en colère, d'avoir peur, d'être insatisfait, fébrile, triste. Non, ce sont des choses qui, d'un côté, montrent là où notre responsabilité est en jeu pour mieux faire, de l'autre côté, montrent là où finalement l'œuvre de Dieu s'accomplit, et malheureusement, il y a des infidélités, des choses qui sont douloureuses, et le Seigneur Jésus a été triste, a été en colère. Hein, dès le commencement de son ministère, on voit ça en Marc, au chapitre 3 et au verset 5. Il est dans la synagogue, cet homme qui a la main coincée, ce bras paralysé, et les pharisiens ne veulent pas, en fait, hein, qu'il le guérisse, parce que c'est un jour de sabbat. Et donc, lui, il est dit, étant, les ayant regardés avec colère, étant attristés par l'endurcissement de leur cœur. Donc, l'accompagnant, il faut qu'il soit dans une maturité émotionnelle. Autrement dit, d'un côté, vivre là où c'est difficile, De l'autre côté, c'est comprendre ce que mes émotions me disent quant à ce que je dois apprendre. Hein, quand je suis insatisfait, pourquoi est-ce que je suis insatisfait? Quand je suis frustré, pourquoi est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis obligé de quelque chose? Maturité émotionnelle, maturité intellectuelle. Hein, l'homme complet ou parfait, nous dit Hébreux 5,14, a par le fait de l'habitude les sens exercés à discerner le bien du mal. Donc une maturité intellectuelle par le fait de l'habitude. Hein, les sens exercés, autrement dit, le travail sur la conscience, ce n'est pas un travail qui vient comme ça, en fait. Hein, suivant comment est-ce qu'on regarde les gens, nos actions, les circonstances, alors on a les sens exercés à discerner le bien ou le mal, ou pas, en fait. Moi, quand il y a des gens qui me disent « je suis jaloux, je suis colérique, je suis naturellement triste ou inquiet », ben, je dis ben « voilà, malheureusement, des gens qui, par le fait de l'habitude, n'ont pas le sens exercé à discerner le bien ou le mal ». Qualité donc de l'accompagnant, maturité émotionnelle, maturité intellectuelle, maturité spirituelle. Par exemple, la première chose que nous devrions toujours faire, c'est donner raison à Dieu. Et c'est incroyable le nombre de personnes chez les souffrants que j'entends et qui commencent par dire « moi, je ». Voilà. Bon, si Dieu est souverain, en fait, mais moi je me prépare à vieillir, et à vieillir peut-être mal, je ne sais pas. Peut-être que je serai grabataire, peut-être que ceci ou cela, mais est-ce que je suis d'accord avec le fait que Dieu est souverain ou pas? Si je suis d'accord avec ça, alors Dieu est souverain. Donc il faut que je me prépare, en fait, à être d'accord avec lui. Et là, il y a un fait de l'habitude, là. Hein, maturité spirituelle, maturité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. On a vu aussi la maturité sociale, autrement dit, cette capacité à aller vers les autres, en fait. Hein? C'est peut-être vers la personne qui m'intimide le plus qu'il faut que j'aille, pour que j'apprenne à ne pas être intimidé. Alors qu'en fait, le souffrant fait toujours le contraire. Mais l'accompagnant, il ne faut surtout pas qu'il cède à ce genre de choses. Hein? Et l'accompagnant qui peut-être n'est jamais entré dans un accompagnement entre guillemets pas professionnel mais avec une carte, hein, ben la première fois il va se dire j'y connais rien, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire je représente quand même Dieu dans ce que je fais. Alors si je fais les choses comme ça, je reste humble, je reste petit, mais je suis à ma place. Hein, c'est comme le dentiste qui a son premier patient. S'il dit « je ne sais pas travailler », ça ne marche pas. Non, il sait travailler, il a quelque chose qu'il peut retransmettre. Voilà donc les qualités de l'accompagnant. Et là, on a vu globalement quelque chose à ce sujet. L'entretien, c'est... pour moi, aujourd'hui, les choses sont assez claires. L'entretien, c'est... se donner le temps d'entrer dans les choses, mais pour entrer dans les choses, il faut se dire bonjour, il faut faire connaissance, on ne peut pas aller tout de suite au sujet, etc., et puis le traiter de manière chirurgicale et dire au revoir, comme aujourd'hui fait la chirurgie. Hein, ce n'est pas contre la chirurgie ce que je fais, c'est que, en fait, nous sommes appelés à être complètement dans l'humanité, dans la pratique pastorale. Et donc, il faut se donner le temps. Mais se donner le temps, c'est se donner suffisamment de temps, mais pas trop. Parce qu'on se fatigue. Pour ça que, pour moi, une heure, c'est pas mal. Quand on a parlé une heure ensemble, on s'est dit des choses. Et quand on parle plus longtemps, je remarque que souvent on tourne autour de quelque chose. Mais on y tourne, on l'a vu, hein, mais en fait on y revient, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, une heure. Et on a vu dans l'entretien qu'il y a trois grandes phases. L'écoute, la reformulation et les perspectives. Ça, c'est des choses qu'il faut relativement savoir. Hein, voilà, ces trois grandes phases, écoute, reformulation, perspective. Parce que finalement, c'est toujours pareil dans toute relation humaine. Hein, quand je rencontre quelqu'un, ben, je l'écoute, je reformule, c'est-à-dire que j'essaie de bien comprendre ce qu'il me dit, et souvent d'ailleurs, c'est difficile de bien reformuler. On a tellement de choses à se dire qu'on prend plus de peine à se raconter qu'à être bien certain qu'on comprend l'autre. Et puis les perspectives, c'est finalement, dans la pratique pastorale, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Esprit de Dieu, avec ces choses-là. Le bonheur. Alors, pour l'entretien, je dis, parce que c'est vrai qu'il faut aussi voir d'autres choses qui n'ont pas été dites dans ce sujet de l'entretien, mais qui ont été dites à d'autres moments. Je fais un entretien par semaine, pendant le temps qu'il faudra, mais en étant vigilant, de savoir quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Hein, par exemple, il y a des gens avec qui j'ai arrêté au bout de 2 ans, et qui l'ont mal vécu. Mais personnellement, j'en ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Oui, c'est toujours un peu triste, un peu difficile de dire on arrête. Mais d'abord, il faut l'amener, il faut voir comment ça vient. Et puis, les gens sont tellement contents de passer 1 heure avec toute liberté, pouvoir parler des choses, apprendre sur la Bible, sur la vie, sur quantité de choses. Mais moi, ce que je fais, c'est du travail pastoral. Si c'est de la formation biblique, alors c'est autre chose. Hein, mais voilà. Et puis l'amitié aussi, il faut faire un peu la différence entre tout ça. Donc c'est, mettons, un peu plus d'une année scolaire et un peu moins de 2 années scolaires en moyenne. Mais il y a des gens que j'ai accompagnés 4 ans ou 5 ans. Parce qu'il y avait des grosses difficultés. Et il y a des gens que j'accompagne 2, 3, 4 fois, en fait. Parce que, notamment les jeunes. J'ai eu une jeune fille anorexique de 17 ans là, il y a quelques jours là, et un entretien de 17 ans et puis je la revois dans 1 mois, mais avec elle on n'a pas besoin de faire des discours, hein. Avec les ados en général, ça on l'a vu dans l'identité, on en parlera. Donc une fois par semaine pendant le temps qu'il faut, parce qu'en fait on travaille dans la profondeur de l'âme, nous dit Proverbe 20 verset 30. Hein, l'âme, c'est quelque chose d'important. Il faut parcourir le pays, comme l'Éternel dit à Abraham. Hein, il faut prendre possession de son être. En fait, il faut se connaître. Voilà. Donc, il faut du temps. Mais par contre, je fais la rupture des vacances. Autrement dit, en ce moment, je suis en vacances. Et parce que, justement, je veux prévenir la dépendance. On est un souffrant tellement bien avec un papa ou une maman qu'en fait il va d'oasis en oasis, hein. Alors quand il rencontre papa ou maman pendant 1 heure, il est au paradis, et après il va affronter les rudes vicissitudes de la vie, mais en attendant qu'il retrouve papa ou maman. Et ça, c'est pas bon, parce qu'en fait le Seigneur nous appelle à aller affronter les vicissitudes de la vie, mais sans papa et maman. Il nous appelle à le faire en étant adulte. Donc, 1 heure, le temps qu'il faudra, mais quand même limité, et ensuite, avec des ruptures, pour moi, c'est les ruptures de vacances, c'est pas mal, hein, ça permet de... Et juillet-août, ça fait 2 mois, et j'arrête avec ce sujet en disant que les ruptures sont peut-être le moment où le souffrant travaille le plus. Parce que quand on a entendu des choses, c'est quand on est après seul avec ces choses qu'on les met en œuvre. Tandis que tant qu'on est avec papa ou maman, ben, on est content de l'entendre chez papa et maman. « Ah, tu peux me rappeler s'il te plaît parce que j'ai pas bien compris. » Mon œil. En fait, le plus souvent, on a bien compris, mais on est tellement bien avec quelqu'un qui nous porte. Hein, les disciples, pendant 3 ans et demi, ils ont rien compris. Pierre est arrivé au bout de l'énormité en disant « Seigneur, je ne te renierai jamais » et c'est lui qui l'a renié. Mais dès que le Seigneur est parti, qui est-ce qui a pris les devants? C'est Pierre. Donc voilà quelque chose à mon avis de très très significatif. Le bonheur, je l'ai placé en tête, en principe je le place même en première réflexion. Mais là, c'était parce que ici, ce sont les conférences du soir, donc qui sont publiques. Et donc, le bonheur, ça doit être notre carte de visite. Voilà. Est-ce que tu veux être heureux? Oui, mais je ne sais pas comment. Ah, donc on le pose. Et pour moi, les 6 points du bonheur, que maintenant je connais par cœur, mais bon, peut-être pour les connaître par cœur, il faut y rentrer, c'est donc trouver la paix, Épître aux Romains, trouver le plaisir dans la liberté, Épître aux Galates, trouver la joie, Épître aux Philippiens, trouver la satisfaction, Épître aux Colossiens, trouver la sérénité, première épître de Pierre, et trouver l'amour, première épître de Jean, épître de Jean. Et donc, c'est vrai que depuis que j'ai compris ça, alors quand je déraille, je me recadre très facilement, parce que je sais, je peux beaucoup plus facilement savoir là où ça ne va pas. Hein, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et suivant ce que je ressens, alors ça me permet de me recadrer. Ça me permet de construire mon bonheur, mais aussi de revenir à mon bonheur. Et donc, il y a 6 états d'âme agréables, hein, donc paix, plaisir, joie, satisfaction, sérénité, amour, qui correspondent à 6 états d'âme désagréables: colère, frustration, tristesse, insatisfaction, c'est le tableau, hein, insatisfaction, fébrilité et peur. La seule chose que j'explique pour Jacques, c'est que pourquoi la peur est l'opposé de l'amour, c'est parce que, et non pas l'indifférence par exemple, hein, c'est parce que 1 Jean 4, 18 nous dit que l'amour parfait chasse la crainte. Et dans ce contexte d'1 Jean 4, 18, on voit vraiment qu'il s'agit de la peur de Dieu, hein, dans ce paragraphe. Ou qu'on ne réalise pas à quel point Dieu nous aime, et ce qui fait qu'on a peur de lui, malheureusement. Et donc, quand on a peur de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas dans l'amour, on ne ressent pas l'amour des gens, et on n'est pas en train de les aimer. Et donc, aimer, s'aimer soi-même, c'est s'apprécier, c'est être bien, c'est ne pas avoir peur de se montrer. Et dans un sens, quand on n'aime pas quelqu'un, alors on se cache. On ne veut pas se montrer, en fait. Et donc, l'amour parfait chasse la crainte. Grec, phobos. Voilà le bonheur. Donc, c'est important d'avoir des perspectives sur le bonheur. Et par exemple, alors je parlerai des outils tout à l'heure, mais un outil, c'est donner à quelqu'un la possibilité de prendre conscience qu'il y a de la déception, de la frustration, de la fébrilité, etc. En prendre conscience, c'est le rôle des émotions. On a vu ça donc le mardi 7 septembre. C'est-à-dire que les émotions, c'est le langage, la partie irrationnelle du langage. Et donc, dans l'émotion, j'entends en fait ce que je pense et ce que quelque part je ne me dis pas, ou j'entends ce que l'autre me dit aussi. Et donc, il faut qu'on arrive à décrypter, à entendre tout ça. Intuitivement, on le sait, mais souvent, on n'en tient pas compte, en fait. Hein, on entend que l'autre est en colère, mais bon, on dit, mais il est en colère. C'est dans sa nature. Non, c'est pas dans sa nature, c'est un langage. Si c'est un langage, il faut que ça parle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce langage? Voilà le rôle des émotions. Le rôle des pensées, c'est que nous n'avons pas de levier sur les émotions. Quand je suis en colère, l'émotion, c'est le fruit de mes pensées. Et on a vu, par exemple, par rapport aux 6 états d'âme douloureux ou désagréables, quels sont les buts qui correspondent. Hein, vous avez ça dans le PowerPoint sur les émotions. Par exemple, je suis en colère quand mon but est bloqué. Hein, j'ai peur quand mon but est incertain. Voilà, je pense que ça doit être que je suis insatisfait quand mon but est mal fait, hein, ou inaccessible. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Hein. Et donc, en fait, je suis frustré quand mon but est contraint. Et donc, d'où l'importance de mes buts. Et ça montre bien que l'émotion est quelque chose qui découle de ce que je pose. Je suis continuellement en train de poser des choses dans mes pensées, je suis continuellement en train de construire mon regard sur tout ce qui m'entoure. Et donc, je vais vivre émotionnellement suivant ce que je construis. Si par exemple, je pense à quelqu'un qui m'a dit il y a une vingtaine d'années, quand j'arrive à l'église, je regarde si les frères ont leur veste, et quand ils ne l'ont pas, alors je peux l'enlever, alors c'est quelqu'un qui construit son inquiétude. Heureusement, ça n'existe plus beaucoup, ce genre de choses. Mais voilà, ça peut exister encore. Et ce qui se fait plus dans l'église peut se faire de différentes manières. Dans d'autres milieux, en ayant finalement peur d'être soi-même. Hein, voilà. Et c'est pour ça que les pensées sont en nous un levier fondamental. Tout se passe dans ce que je pense, et je peux penser, et on a vu dans les pensées, avec des termes un peu barbares, non grecs, hein, entuméomai, c'est ruminer, hein, logizomai, c'est rendre logique, c'est découper, trier. On a vu noéo, c'est comprendre, et la métanoïa, c'est la repentance. Phronéo, c'est établir. Et après, dire, il me semble. Hein, dokéo. Voilà, ce qui reste. Voilà, on reste toujours d'accord avec Dieu, on est petit, en fait. Et quand on comprend tout ça dans nos pensées, alors on comprend qu'il y a des moments où, quand je suis dans l'entumeomai, dans la rumination, ben, c'est normal que je ne sache pas où j'habite. En fait. Donc, ok, je suis dans l'entumeomai, pas de problème. Hein? Et c'est ça la maturité intellectuelle. C'est là où je peux, moi, où j'accepte, en fait, de ne pas savoir. Le Seigneur ne m'a pas encore révélé ce que je dois dire ou faire aujourd'hui. Pas de souci. Le rôle de la souffrance. Alors, on a fait la différence entre deux souffrances, de manière fondamentale. La souffrance dans laquelle je n'ai aucune responsabilité et la souffrance dans laquelle j'ai des responsabilités. Exemple, Marc 3, verset 5, le Seigneur est dans cette synagogue, il va guérir l'homme qui a une main paralysée et il est en colère et il est triste, donc il souffre. Hein? Et Jésus a souffert, nous dit un Pierre de 21, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Donc, on est dans une souffrance dans laquelle il est clair que le Seigneur Jésus n'a aucune responsabilité. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qui ne dit mot consent? Ça va? Hein, le Seigneur Jésus il a rien fait, dit le brigand sur la croix, qu'il ne se dût faire. Donc en fait, il y a bien des moments où c'est normal que je sois triste, où c'est normal que je sois en colère. Le problème, c'est que nous, on nous a appris qu'il ne fallait pas se mettre en colère. Souvent. Donc là, dans le rôle des émotions, on a vu des choses dans lesquelles je ne rentre pas, mais on va le voir dans les ateliers. Hein. Et on va simplement dire, il y a des moments où on souffre, ok, et la souffrance, c'est le prix de la course. Dieu nous appelle à construire quelque chose de beau, et quand ça sera construit, ça sera magnifique. En attendant, ben, c'est quand même douloureux. Mais la pratique pastorale est là pour, dans un sens, encourager à vivre dans la souffrance, mais surtout pour enlever les souffrances ajoutées desquelles nous sommes responsables. La souffrance, c'est la marque quand c'est le cas, hein, quand j'ai une responsabilité, c'est la marque de quelque chose que j'ai mal envisagé. Si mon but est contrarié, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Si je, il n'y a aucune possibilité que ce que Dieu me demande soit bloqué. On est d'accord? Hein, voilà. Dans l'absolu, c'est très très clair. Chaque fois que je reviens à ce que Dieu me demande, je peux toujours faire ce que Dieu me demande. Mais le plus souvent, les gens veulent faire quelque chose à la place des autres. Ils ne font pas ce qui relève de leur responsabilité. Et donc, notre travail pastoral, c'est de bien définir la souffrance, y mettre un nom. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle, vas-y, exprime-toi. Et plus la lumière se fait dans ce fatras de souffrances qui sont imbriquées, plus la personne trouve, spirituellement parlant, la capacité d'en sortir. C'est assez étonnant. Notre rôle, c'est le plus souvent d'amener quelqu'un à prendre conscience de sa souffrance. Parce qu'une fois qu'on en a conscience, comme dit Jésus, personne n'a haï sa propre chair. En psycho, on entend beaucoup les gens qui ne s'aiment pas. Moi, je suis mezzo-mezzo avec ça. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne image de soi, on le verra ce soir, justement, avec Romains 12. Mais, d'un autre côté, quand on a une mauvaise image de soi, c'est plutôt parce qu'on est en colère. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas en nous. Et donc, ce n'est pas un manque d'amour, c'est plutôt une colère contre nous. Le rôle de la souffrance, c'est justement de nous permettre de discerner à quel point il y a des choses sur lesquelles il faut que nous travaillions. Et donc, on verra dans les outils tout à l'heure, hein, les trois clés, où le fait de mettre un nom sur la souffrance permet, dans l'absolu, d'agir sur ce qui est de notre responsabilité. Épître et comportementalisme. On a donc vu, dans un programme des épîtres qui est un peu arbitraire, hein, qui est selon ce que j'ai pu comprendre, on a vu comment on pouvait envisager ce programme. Je le mets ici à l'écran. Donc, il me semble qu'il y a comme fondement, cinq lettres, 1 et 2 Timothée, Hébreux de Pierre et Jude, qui parlent de la foi. Voilà, être dans la foi, c'est tout simple, mais encore faut-il y rester, être en relation, hein, rester en relation avec Dieu. Mais savoir revenir, savoir ne pas se faire avoir par la loi, vivre de foi. Savoir nourrir la relation. Eh oui, si on ne se connaît pas. Si on n'entend pas ce qu'on ressent, etc. Savoir nourrir la relation et savoir combattre pour la foi. Parce qu'en fait, être dans la foi, c'est entrer dans un monde dans lequel, tout à coup, on est en face de l'impiété, nous dit Jude. Et combattre pour la foi, ce n'est pas facile. On le verra demain soir. Dans la mesure où je comprends que Dieu m'amène à une relation qui est travaillée, hein, c'est comme avec Jacques, on se connaît depuis 15 ans. On a une relation, notre relation, elle est historique, elle a du relief, et notre relation avec Dieu devrait être pareille, en fait. Une relation se travaille, une relation, elle va, elle vient, etc. Une fois que je travaille à ma relation, alors je vis des choses intérieurement. Et ici, vous avez les six états d'âme agréables, avec la peur, la fébrilité, l'insatisfaction, la tristesse, la frustration et la colère. Ces 12 états d'âme, en fait, qui participent à mon bonheur. Je peux en même temps être en paix avec Pierre et en colère contre Hélène. Donc, en fait, dans mon univers intérieur, il y a quantité de choses qui surviennent. En fait, je peux très bien être serein parce qu'en fait, j'ai un examen en juin, mais par contre, fébrile parce que je vais passer mon permis. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le bonheur est quelque chose de complexe. Et ce bonheur-là n'est pas du tout déconnecté de ce que je fais. Et donc, ici, voilà les épîtres comportementalistes. 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens, 2 Thessaloniciens, Tite, Philémon et Jacques, parce qu'elles parlent du comportement. Je pense que, donc, 1 et 2 Corinthiens nous présentent concrètement ce que doivent être les relations. Et donc, on a vu un survol de ces épîtres comportementalistes. Et on verra mercredi soir comment... On verra un survol dans les 2 Corinthiens, comment vraiment vivre la relation de manière concrète. Dans Éphésiens, donc, le comportement, dans 1 et 2 Corinthiens, le comportement positif vers les gens. Dans Éphésiens, le comportement de résistance à l'égard des démons.
Et donc là, on a un comportement à l'égard des individus. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, et dans Philémon, le comportement à l'égard des circonstances. Parce que dans 1 et 2 Thessaloniciens, il faut que je travaille en attendant. Il faut que je sache que, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça portera du fruit, mais on ne sait pas quand. Et il faut pas que... Et si nous, on est inquiets du fruit que ça porte, forcément, on ajoute une souffrance. Et donc, 1 et 2 Thessaloniciens, et on l'a vu, nous montre quand est-ce que ces choses porteront pleinement. Nous sommes en train de travailler pour le royaume. Voilà. Et donc, on travaille pour aujourd'hui, mais le fruit complet de ce que nous faisons ne sera complet que dans le royaume. Dans Philémon, la vie sociale, on le fera demain après-midi, je crois. Tite, c'est donc ce qui plaisait bien à Chan, hein, maître de l'ordre. On a vu l'autorité, qu'est-ce que c'est que l'autorité, comment mettre de l'ordre. Donc, c'est-à-dire, Philémon, c'est la vie sociale, c'est les circonstances dans lesquelles il nous place. Mais par contre, Tite et Jacques, c'est mes actions. Et donc, mes actions, c'est-à-dire que là, j'ai à mettre de l'ordre dans mes actions. Et Jacques, il me dit comment bien faire, avec au cœur la sagesse qui seule vient de Dieu. Autrement dit, si vous avez bien écouté, vous avez entendu qu'il y avait là les trois domaines dans lesquels mes émotions s'expriment, les personnes, les circonstances et les actions. Et donc, les émotions liées aux personnes, ici, c'est la paix et l'amour. Les émotions liées aux actions, c'est la satisfaction et le plaisir. Les émotions liées aux circonstances, c'est la sérénité et la joie. Et donc, quand on a que l'amour, non ? Quand on a ce cadre, on peut comprendre que dans ces émotions liées, il y a toujours des couples, en fait. Dans les émotions liées aux personnes, la paix, c'est une question de justice. L'amour, c'est une question de prix. Je t'aime parce que je t'apprécie. Hein ? Je suis en paix avec toi parce que c'est juste entre nous. Dans les émotions liées aux actions, la satisfaction et le plaisir. La satisfaction est liée à la justice. Je suis satisfait parce que je fais quelque chose de juste. Et le plaisir est lié au prix. Je fais les choses librement et j'en ai du plaisir parce que je sais que mon action a de la valeur. Et dans les circonstances, la sérénité et la joie, je suis serein parce que je sais que dans les circonstances, Dieu est juste, il est souverain, mais je me réjouis parce que je sais que les circonstances ont un prix. Autrement dit, la justice et le prix sont les deux grandes catégories avec les trois rangs, les personnes, les actions et les circonstances. Ce qui fait que j'ai 6 émotions agréables et désagréables, un panel de 12. On verra si c'était ce qu'il fallait trouver. Voilà. Donc voilà l'intuition des épîtres. Et ces épîtres comportementalistes du mercredi 8 septembre, on en a donc vu quelque chose. La centralité de l'amour, c'est que finalement, dans tout ce que je fais, chaque fois que je me loupe, c'est qu'il y a un manque d'amour. Et prenons des exemples tout simples. Quand je me couche trop tard, c'est que je ne m'aime pas assez. Quand je ne me raconte pas assez à l'autre, c'est que je ne l'aime pas assez. Chaque fois que je rate quelque chose, c'est qu'il y a un manque d'amour quelque part. Bon. Dimanche prochain, dans vos églises respectives, vous poserez la question. Hein, je vous donne 10 secondes, plutôt vous ferez la proposition, je vous donne 10 secondes pour définir ce que c'est que l'amour. Et au bout de 10 secondes, celui qui a trouvé, il lève la main. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et c'est terrible comme quelque chose qui est aussi central dans notre vie est capable de nous échapper aussi facilement.
Donc on ne se donne pas la peine, en fait, puisque l'amour, c'est ce qui donne la valeur. Comment dire, j'ai un bras, il peut être très musclé, très, tout ce qu'il faut, mais si mon bras ne fait pas quelque chose qui porte de l'amour, ça ne vaut rien. Eh bien, nous sommes capables de ne pas avoir de définition de l'amour. Et je crois que notre problème, on va dire dans les assemblées que je fréquente, hein, notre problème, c'est que les enseignants nous ont, comment dire, blessés du n'importe quoi de l'enseignement. On a été habitué à entendre un enseignement duquel on ne pouvait rien faire et l'ayant entendu. En fait, hein, on va faire un commentaire de Jérémie, par exemple, et on sait des trucs sur Jérémie, mais après, dans ma vie pratique, on ne sait pas qu'en faire. Hein, voilà. Alors que, au contraire, sachons entendre un enseignement concret qui va nous permettre de mettre en œuvre quelque chose. Et là, ça marche. Là, tout à coup, on se dit waouh! Masculin et féminin, c'est un des domaines de fragilité essentiel et universel, en fait. On est aujourd'hui le 18 avril, un truc comme ça, ou 17? 18. Voilà, hein. Donc le 30 avril, dans 12 jours, j'ai 27 ans de mariage. Bon. Mais je ne suis pas certain. Je pense que je connais Isabelle. Comment dire, qu'est-ce que je veux dire si je dis à 50%? C'est-à-dire que, en fait, je pense que je ne... et encore, quand je dis Isabelle, c'est ma femme. Je connais la femme. Je suis sûr qu'en fait, entre hommes, quand on se regarde, on a saisi 95% de ce qu'on veut se dire. Et entre femmes, il y a terriblement... voilà, il y a deux mondes, en fait. Il y a deux mondes. Voilà, il y a des retentissements qui sont terriblement différents. Et je l'affirme parce que ça peut paraître déstabilisant de dire ça. Mais je ne crois pas que ce soit déstabilisant. C'est plus important d'être réaliste, en fait, et de dire on a certainement du mal à se comprendre, hein, et que d'être un peu dans une sorte de romantisme béat et idiot, hein, en disant on s'aime et que c'est beau, etc. Je crois que voilà, ça vaut la peine d'entrer dans ce sujet de manière profonde. Comment est-ce qu'on a fait avec Genèse 1, 2, 3? Genèse 1, hommes et femmes sont créés ensemble pour un même but. Genèse 2, hommes et femmes sont créés séparément pour un but différent. L'homme garde le jardin, il y travaille, la femme, et le vis-à-vis de l'homme. Genèse 3, l'homme et la femme et l'homme sont sanctionnés séparément avec des sanctions différentes. Autrement dit, dans Genèse 2, je vois que la femme a un rôle relationnel, l'homme a un rôle actionnel. En Genèse 3, je vois que la femme est sanctionnée dans un domaine relationnel, tu enfanteras dans la douleur, et ton mari dominera sur toi. Tes relations avec tes enfants et avec ton mari seront abîmées, peut-être parce que tu as voulu entrer en relation avec le serpent, peut-être parce qu'Adam n'était pas là. Hein? Mais tu es un être relationnel et tu t'es blessé dans la relation. L'homme, tu es un être actionnel et tu es un bourrin, tu penses qu'à ça. Hein? Et donc tu t'es blessé dans l'action et à cause de toi, la terre est maudite, tu mangeras péniblement, à la sueur de ton front, etc. Donc, comment sortir de ça? Ben, c'est 1 Pierre 3,7 nous dit, Marie, demeurez avec vos femmes. Le problème des femmes, c'est qu'elles sont seules. C'est pas qu'il manque quelque chose, elles ne sont pas avec. Alors ça, c'est un... attention, je parle de choses sensibles, hein, je parle de réalité universelle. Et de réalité intérieure et profonde. Je ne parle pas de tout ce que l'éducation et l'habitude peuvent apporter de nuances à tout ça. Hein, voilà. Donc, l'homme doit rester avec. Hein, l'homme qui arrive du travail et sa femme qui a travaillé de 36 manières, hein, soit parce qu'elle est médecin ou parce qu'elle est à la maison, elle lui dit bonjour, et en fait, Elle lui dit ça va, et lui, il lui raconte sa vie, mais il n'est pas avec elle, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de lui raconter sa vie. Et toute la difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être avec quelqu'un. Voilà, c'est ça, masculin et féminin. Et je crois que quand l'homme comprend ce que ça veut dire d'être avec, alors il comble la femme. Soit sa femme, soit la femme dans la relation amicale, par exemple. Et quand la femme comprend qu'est-ce que ça veut dire faire avec, alors elle comble l'homme. Et donc, il faut que la femme revienne dans le faire et l'homme dans l'être. Hein? Les deux étant excellents, en fait. Hein? Et si on ne pose pas ça, alors les relations masculin-féminin sont très difficiles. Et par exemple, dans la louange rendue dans l'Église, alors si la louange est masculine, alors les femmes ne s'y retrouvent pas. Et donc, à nous de voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Le rôle de la volonté. La volonté, c'est la manifestation émotionnelle de mon système de pensée. Quand je comprends bien, alors je veux. Et partout là où je ne comprends pas bien, alors j'ai du mal. Voilà. Si j'ai du mal à parler ou à me taire, c'est parce que je ne comprends pas bien que c'est important de parler ou de me taire. Vouloir, c'est comprendre. Maître de l'ordre, on en a déjà parlé. Souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme. Alors il y a des milieux dans lesquels la responsabilité de l'homme est terriblement mise en avant. Par exemple, du temps des Lumières, il y a les jésuites et les jansénistes qui s'opposent. Et les jésuites mettent terriblement en avant la responsabilité de l'homme et les jansénistes terriblement la souveraineté de Dieu. Hein, les jansénistes sont des catholiques qui font comme Calvin, qui a mis terriblement en avant la souveraineté de Dieu. Et donc, dans un sens, moi, je suis presque quelqu'un de téléguidé par Dieu. En fait, hein, dans l'institution chrétienne, je crois qu'à un moment donné, Calvin dit l'homme est un cheval qui est chevauché par Dieu. Hein? Et donc, moi, j'ai du mal à rentrer là-dedans. Hein? Dieu est souverain, mais Dieu me donne une responsabilité personnelle qui est terrible. Et alors, dans le milieu que je fréquente, nous sommes souverainistes. Hein? Ah, donne à notre âme plus de sainteté, plus ardente flamme. Fais qu'elle contemple sans cesse l'agneau. Seigneur, nous te demandons qu'elle contemple sans cesse l'agneau. Andouille, regarde-moi. Hein? C'est ça, en fait, la problématique. Hein? Voilà. Et donc, y a des gens qui se retranchent dans la souveraineté de Dieu. Mais il y a des gens qui se retranchent dans la responsabilité de l'homme et qui sont dans un activisme dans lequel ils ne se retrouvent pas non plus. Parce que, quelque part, si j'oublie que Dieu est souverain, je suis perdu. Attendre la récolte, on en a parlé. Et puis l'occultisme, voilà, c'est peut-être pas quelque chose de tout à fait dans la pratique pastorale. C'est important de savoir. Jésus n'a pas arrêté d'exorciser des démons. Et je pense que nous, il faut qu'on se forme, il faut qu'on en parle, hein, il faut qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et on peut s'y former. On va voir donc la deuxième semaine. Dans la deuxième semaine, on a vu avec Job. Ça va ? Oh, il n'a pas l'air malheureux, hein.
Oui, on fait tout ça, non ?
C'est-à-dire ? Mais si tu veux, là, c'est un survol. Mais tu n'as pas besoin de ça ? Ah, mais ça on n'a jamais fait, ça. Faire un survol comme ça, on n'a jamais fait.
Non, mais les concurrences elles-mêmes.
Oui. Mais si c'est pas utile de faire ça, moi je passe.
C'est génial, tout enregistre.
Non, mais est-ce que j'ai compris plein de trucs?
C'est génial.
Est-ce qu'on en reparle après?
Oui, bien sûr, oui.
Est-ce que tu enregistres
pas? Oui. Ah, oui. Donc, deuxième semaine, dans Job, Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord que quand les amis de Job viennent le voir, ils ne savent pas que lui dire, mais Job, il n'a pas besoin de... Il a besoin de ses amis pour parler, mais il n'a pas besoin que ses amis lui demandent de parler. Quand, au bout de 7 jours, il s'exprime, et dans ce qu'il exprime, il exprime strictement ce qu'il pense. On a vu au chapitre 3 que dans ce que Job pense, il y a les 3 grands principes du monde. Autrement dit, la convoitise de la chair, chapitre 3, verset 10, « Je ne veux pas voir la misère ». La convoitise des yeux, chapitre 3, verset 13, c'est « Je veux être peinard ». Et l'orgueil de la vie, chapitre 3, verset 24-26, c'est « Je veux contrôler ma vie ». Et donc, dans un sens, Dieu donne à Job ce qu'il lui demande. Autrement dit, Dieu donne à Job le Dieu que Job recherche. Job est parfait parce qu'il fait ce que Dieu lui demande, mais il se met en souffrance, en fait, parce que sa motivation pour le faire n'est pas une bonne motivation. Job donne donc à Dieu, enfin, Dieu donne donc à Job ce que Job demande indirectement. Et qu'est-ce qu'il demande ? En fait, il demande, puisqu'il recherche les principes, il pose sa vie sur les principes de ce siècle, alors il a affaire au Dieu de ce siècle. Et Satan peut intervenir avec l'autorisation de Dieu sur Job, en étant très cadré, touche à ses biens, ne touche pas à son corps, touche à son corps, mais ne touche pas à sa vie. Et de ce fait, le monde invisible permet à Job de comprendre toute sa dimension invisible. Donc, le livre de Job, c'est vraiment le livre de la pratique pastorale, à mon sens, dans lequel tout ce que, finalement, Job doit comprendre de lui-même et tout ce que les accompagnateurs fâcheux doivent comprendre d'eux-mêmes ressort. Eliu est un bon accompagnateur et on voit dans Eliu les principes de l'entretien dont je vous ai parlé tout à l'heure. La solitude, c'est quelque chose qui ressort le plus souvent d'un manque d'amour. Les gens qui se sentent seuls sont des gens qui n'ont pas mis en projet central d'aimer. Quand on est seul, on se prépare à aimer quelqu'un, on se prépare à rencontrer quelqu'un. Et en général, l'amitié, c'est comme l'avalanche. Hein, quand on rentre en amitié, on en a de plus en plus, en fait. Parce que quand on rentre en amitié et qu'on aime vraiment les gens, alors il y a un moment donné, on se dit, mince, j'ai plus le temps d'aimer les gens, tellement il y en a à aimer. Hein, et c'est là où il faut un peu limiter et se dire, ben, tiens, il y a les gens qui sont autour de moi. Il faut que j'aime les gens qui sont autour de moi et que je ne cherche pas midi à 14h. Ça, c'était des formules de mon père, ça. Chercher midi à 14h, c'est plus clair que de l'eau de roche. Voilà. Et, bon, donc il faut qu'on se donne la possibilité de faire comprendre à quelqu'un qui dit « je me sens seul » pourquoi il se sent seul. Sans le blesser, sans l'agresser, mais l'amener à comprendre qu'au centre de son projet, il y a un manque d'amour. On a vu des principes de communication, notamment dans Éphésiens, qui commence Éphésiens 4:15 par « étant vrai dans l'amour » et qui finissent, Éphésiens 5:18, par vous entretenant par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Savoir conclure, on a insisté sur ce fait que dans le dialogue, comme dans l'entretien pastoral, tout est tout. Non. Certaines choses sont conclusives. Autrement dit, je vais prendre 2-3 exemples. Reformuler, c'est conclusif. Ah, c'est ça que tu as dit. Ah, non, pas du tout. Et là, on aide beaucoup la personne en reformulant, en disant c'est comme ça que j'ai, c'est ça que j'ai compris dans ce que tu m'as dit. Et là, la personne se positionne par rapport à ce qu'elle a dit, même si effectivement c'est ce qu'elle a dit. Alors, ça peut lui permettre de dire non, c'est pas ça que je veux penser finalement. materner, encourager, consoler, accompagner, c'est conclusif, parce que ça donne à la personne cette dose d'amour qui lui fera du bien. Faire des coupures de la semaine, les coupures des vacances, et arrêter, c'est conclusif. Il faut savoir conclure. Vivre un conflit, c'est une opposition d'idées, polémos, en grec, qui est donné polémique. Et donc, les oppositions d'idées sont mal vécues, comme dit Jacques, parce que ce sont les plaisirs qui les gouvernent. Et là, on n'a pas raison. Au contraire, si on fait de l'opposition d'idées avec comme but de grandir dans la vérité de Dieu, alors les oppositions d'idées sont très, très, sont utiles, sont fructueuses et ne sont pas pénibles. Sur le projet familial, je ne vais pas dire grand-chose, parce que peut-être simplement rappeler Éphésiens 3.15, qui dit que la famille porte la marque du Père. Éphésiens 3.15. Et peut-être aussi vous suggérer que dans Jean 14, verset 1, quand le Seigneur Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures », quand Jean 10, le Seigneur Jésus dit « Il faut que j'ai d'autres bergeries, mais il faut que je m'occupe de cette bergerie », alors je pense que le projet familial, la demeure, les bergeries, c'est un projet éternel. Ça ne m'étonnerait pas que dans l'éternité, nous vivions en famille, en ethnie. Mais que ces échanges familiaux soient des échanges magnifiques. Magnifiques. Parce qu'on a des habitudes, on a des traits familiaux, et les uns seront spécialistes de ceci, les autres de cela. Et on ira chevaucher un dauphin qui nous amènera en Papouasie, et on ira rencontrer d'autres familles, voilà, qui pourraient ne pas être mal. Mais ce n'est pas sûr que ce soit comme ça, hein, quand même. Identité et construction.
J'ai sauté mercredi 2.
Oh, pardon, j'ai sauté mercredi 2. En voilà un qui suit, merci Jacques. Donc, Dieu, voilà, mercredi 2, Dieu appelle et qualifie. On a vu, en fait, que...
Je pense à la terrasse.
Tu vois
on a vu, du soir.
Ouais, on a vu que, comment dire, si les choses ne sont pas, ne procèdent pas de l'appel de Dieu, alors on est misérable. Voilà. L'appel de Dieu, c'est si ce que je dis, je ne le dis pas par appel de Dieu, alors ce n'est pas la peine que je le fasse. Mais si Dieu m'appelle, alors il m'en donne les capacités. Donc, je ne dis pas, je n'y arrive pas, je ne pourrais pas le faire, j'ai peur, etc. Non, hein, j'y vais et puis je verrai bien ce qui se passe. L'autorité, c'est un point de vue un peu général, qui creuse ce qu'on a vu avec Tite. Hein, dans Tite, il y a l'autorité, mais là, on a vu l'autorité de manière plus précise. La sexualité, donc le mercredi soir, qu'est-ce que je peux dire de la sexualité? C'est un des domaines d'application pratique de masculin et féminin. Et on a vu à la fois comment j'ai proposé cette expression de l'homme qui doit trouver la relation dans la sexualité, et de la femme qui doit trouver la sexualité dans la relation. Autrement dit, parce que l'homme est en action, il aura tendance à vouloir arriver à l'orgasme, et parce que la femme est dans la relation, elle aura tendance à vouloir être comblée par une relation. Et donc, là aussi, il y a un chemin dans la sexualité qui est à faire. Et on a parlé de masturbation, comme étant vraiment en résumé, d'ailleurs cette conférence a été écoutée par des étudiants qui ont été scandalisés, je vous le dis au passage, une étudiante qui m'a envoyé des mails un petit peu brûlants, et j'ai dit, il ne faut pas se prendre la tête avec la masturbation. Hein. J'ai dit, pour moi, ce n'est pas un problème, mais c'est toujours une impasse, ça mène nulle part. Parce qu'à mon avis, la sexualité est quelque chose qui est à vivre à deux. Hein? Mais en attendant, j'ai reçu dans mon bureau des personnes de 50, 60 ans, et qui m'ont dit, et quand je leur ai dit que c'était une impasse, alors là, je me suis fait zigouiller. Et ils m'ont dit, mais alors, et qu'est-ce qu'on fait, nous hein? Voilà. Donc, moi, je veux être simple avec ça et peut-être dire qu'il ne faut pas du tout exacerber les choses et plutôt trouver la voie royale dans une relation avec les gens. Et peut-être que de ce fait, le besoin sexuel du célibataire ou des gens qui ne sont pas satisfaits dans leur sexualité se trouvera estompé. Et puis on a parlé d'homosexualité aussi, là j'y reviens pas. Identité et construction. Identité et construction, on a vu que l'identité est quelque chose qui se construit dans un face-à-face avec Dieu, dans des perspectives que Dieu donne, et avec finalement cette force hein, et ce modèle de Dieu. Et il faut bien comprendre ce que c'est qu'identité. Hein, ce que je suis, c'est tout ce que je suis devenu. Hein, c'est très malléable. Je peux, moi, je n'ai pas à dire, moi, je suis impatient, colérique ou toujours positif. Non, j'ai toujours à renouveler, en fait, ce que je suis par ce que je pense. Hein. Comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Alors, la centralité de l'amour, on l'a fait deux fois. Hein, en fait, j'avais un petit loupé dans mon programme. L'art d'un point de vue chrétien, on a montré l'importance de l'art, c'est-à-dire de l'artisanat, c'est-à-dire de l'action, en fait, et de tout ce que Dieu m'appelle à faire d'un point de vue chrétien. Et puis, on a vu qu'il n'y avait pas de handicap pour les chrétiens. C'est le thème de naître à Noël, un handicap. Alors, je le dis un peu fort pour que... Hein, question de Jacques, est-ce qu'on a parlé de la culpabilité et de quelque chose qu'on subit? Je vous propose de le voir en atelier. Hein, je vais y répondre très courtement. Être coupable, c'est être condamné. Et donc, quand je me sens coupable, est-ce que la culpabilité vient de l'Esprit de Dieu ou bien de moi ou bien du démon? Hein? C'est-à-dire, en fait, la chose que je ou qu'on me reproche, est-ce que, en fait, qui est-ce qui l'affirme? Et en définissant la souffrance, on peut savoir assez précisément ce qui est de mon domaine de responsabilité ou pas. Par exemple, prendre un verset très très précis. Dans Tite 1, verset 6, il est dit « Il faut que le surveillant ait des enfants fidèles. » On l'a vu dans Tite. Et donc, c'est étonnant comme la parole de Dieu est précise. C'est que le mot « enfant », c'est... je ne sais jamais si c'est « tekna » ou « païs » en grec, c'est l'un des deux, je vous le dirai tout à l'heure. C'est un mot qui caractérise l'enfant qui n'est pas encore pubère. Et pourquoi est-ce qu'il faut que l'enfant soit fidèle? C'est parce que l'enfant qui n'est pas encore pubère, on l'a vu dans l'identité, c'est quelqu'un qui est une éponge et qui fait strictement ce que font les parents. Donc si l'enfant n'est pas fidèle, ça veut dire que les parents ne sont pas fidèles. Si les parents ne sont pas fidèles, ça veut dire que le surveillant n'est pas à sa place. Si on voit l'enfant insulter Dieu, on se dit, waouh, qu'est-ce qui doit se passer dans cette maison? Mais il faut que le surveillant ait des enfants fidèles, ça ne veut pas dire que le surveillant, mais que ses enfants, quand ils ont 50 ans, voilà, hein, c'est plus ses enfants, ce sont des adultes. Et c'est intéressant de voir comme la Bible répond avec précision sur cet ensemble de points dans lesquels on pourrait se laisser submerger. Autrement dit, la question de culpabilité, qui est une question émotionnelle, l'émotion nous renseigne sur quelque chose et nous, on va chercher avec précision sur quoi elle nous renseigne et on va faire notre chemin et on va dire voilà ce qu'il en est. On en reparlera hein? Autre chose?
Moi, je trouve ça très intéressant de savoir par rapport à la foi. ça peut être un sujet de culpabilité pour ceux qui ont des responsabilités qui peut peser très très lourd, et le fait de voir la racine de ce mot, ça peut soulager la conscience, mais énormément, parce que l'individu souffre.
Voilà. Alors, j'ai parlé de ça. Bien sûr, il faudrait ajouter aussi que j'ai parlé de ça pour enlever le rigorisme, mais pas pour ajouter le laxisme. Donc, sachons aussi être repris dans notre conscience par les choses qui ne vont pas. Voilà, moi j'ai une fille de 26 ans qui se marie. Bon, je lui dis, tu prends tes responsabilités. Hein, comment dire, c'est pas parce que mon enfant est pubère que je me défausse. Hein, non, dans toute l'adolescence, il s'agit que les parents accompagnent les adolescents. Et puis après, quand les enfants sont adultes, alors ils font ce qu'ils choisissent de faire, mais ça ne veut pas dire que les parents ne disent rien. Hein, mais par contre, au niveau de la responsabilité, quand les enfants quittent papa et maman, alors c'est les adultes. Hein, et donc, que celui qui pense avoir apporté une éducation complète et parfaite à ses enfants, lève la main.
On revient aussi dans ce principe de la jeunesse, quitter, séparer, tout s'attacher. Et quand l'enfant quitte les parents, c'est pratiquement sa vie.
Exactement.
Il prend des décisions, des responsabilités. Et nous, on n'a pas non plus, ayant la connaissance de la parole de Dieu, de vouloir intervenir dans leur vie, dans les conseils, oui, parce que nous sommes des conseillers pour les enfants, mais de vouloir diriger leur vie, dicter leur vie, c'est plus notre façon. Hein?
Qu'est-ce que tu penses du verset de Proverbe 22 ? Il lève le jeune garçon selon la règle de sa voix, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas.
Moïse.
Oui. Oui, donc d'un point de vue positif, c'est très important ça. Ça ne veut pas dire que celui qui a été élevé dans une bonne règle ne s'en détourne jamais. C'est-à-dire que ça veut dire, en fait, donne-lui de l'or. Hein? Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire avec cet or ? Hein? C'est une promesse, mais encore faut-il que l'adulte prenne cette promesse. J'ai donc dans un mois 51 ans, et il y a des choses que mes parents m'ont enseignées qui sont bonnes et que j'ai transgressées. C'est la faute de mes parents. Je crois que ça veut peut-être dire que les ayant transgressés, je vais peut-être plus en prendre conscience aujourd'hui et avancer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un absolu ici. S'il était pris dans son absolu, quelque part, ça voudrait dire que l'enfant n'est pas libre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je préfère dire oui. Il y a une promesse dans laquelle il faut qu'on rentre. Hein, je vais me faire un petit café. Il y a de l'eau ? Oui. Il y a une promesse dans laquelle il faut qu'on rentre. Bon, on y rentre. Mais ça ne suppose pas que la personne qui rentre, qui reste.
Dans ce verset, je sens deux responsabilités. La responsabilité, mais aussi sur cet homme, cet enfant qui reçoit. Parce qu'il, apparemment, il devient, hein, parce qu'il a reçu des parents. Mais en premier lieu, nous avons cette responsabilité d'éduquer nos enfants dans la gloire de Dieu. Arrivé à un moment, c'est vrai qu'ils ont un choix, peut-être simplement les gens, peut-être qu'ils vont donner une bonne direction. Le problème, l'idée, c'est que quand tu dis tout à l'heure, par rapport à l'enseignant qui enseigne mal et qui ne culpabilise, et nous aussi, on peut faire la même chose avec nos enfants. On
pauvreté ou de ce qu'on reçoit. Alors on veut forcer nos enfants parce qu'on nous a appris ça, publiquement parlant, on nous a appris des choses un peu comme ça, tu vois. Alors au lieu d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu, à tourner leur regard vers le Seigneur quand ça ne va pas, ben on applique plus les règles que de passer du temps avec eux.
Ça, c'est clair.
Et finalement, à un moment donné, ben, comme les choses sont faites selon plus ou moins un principe charnel, qui n'est pas du tout selon l'amour de Dieu, ben là, on peut perdre nos enfants, effectivement. Parce que l'enfant, il revient quand les choses sont faites dans la volonté de Dieu aussi. Parce que là, il est en train de mettre la responsabilité sur l'amour que tu donnes à ton enfant. Et puis ton enfant revient parce qu'il a reçu. Moi, je pense à Moïse quand même. Je pense à sa mère qui s'occupe de lui. Et à un moment donné, il va faire un choix de s'occuper de son père. Bravo.
Alors, quand on a traité de parler du sujet identité et construction, tu parlais de la bonne image de soi et tu étais mitigé. Et il n'y a pas longtemps, je me disais, c'est vrai que cette expression bonne image de soi, et je me disais, est-ce que l'expression une juste image de soi, juste, c'est-à-dire l'image de soi de l'enfant de Dieu, etc., elle est juste, quelque part, elle est bonne, puisqu'elle est selon Dieu, et il me semblait que une juste image de soi, ça, c'était une expression qui était peut-être. Parce que c'est vrai que bonne image de soi. Et puis il y a pas mal de. Il y a encore pas mal de chrétiens qui, quand tu parles de bonne image de soi, c'est. Tu fais bondir. Alors donc, évitant de faire bondir. Et si tu dis une juste image de soi, je pense que.
Peut-être que j'aurais envie de dire, rajouter complète. Une image de soi complète.
Voilà. Recevoir de Dieu le regard qu'il a sur nous, hein, de manière complète.